Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale de notre podcast Pas un crime. Le 30 novembre 2023, la Cour suprême de Russie, saisie par le ministère de la Justice, décidait à huis clos de qualifier le mouvement international LGBT d'organisation extrémiste interdite en Russie. Les conséquences juridiques de cette décision sont graves. Elle expose les personnes associées à la communauté LGBT à des risques de poursuite et d'emprisonnement. Dans cet épisode, Cécile Kazachkin, analyste et politique au réseau juridique VIH, et Natalia Morozova reviennent sur cette décision et le contexte répressif dans lequel elle s'inscrit. Juriste et défenseuse des droits humains russes, Natalia Morozova travaille pour la Fédération internationale des droits humains et la célèbre organisation non gouvernementale Mémorial, Centre de défense des droits humains. Fondée il y a plus de 30 ans, Mémorial a été dissoute par le pouvoir russe en décembre 2021, juste avant l'invasion de l'Ukraine. Mémorial a reçu le prix Nobel de la paix en octobre 2022 aux côtés du Centre pour les libertés civiles ukrainiennes et de l'opposant biélorusse Aless Bialyatsky.
Bonjour Natalia, comment vas-tu aujourd'hui?
Bonjour Cécile, très bien, merci. Je profite un peu de vacances.
Je suis vraiment très contente que tu puisses parler avec nous aujourd'hui, merci beaucoup. Donc Natalia, la répression russe contre le mouvement LGBTI n'est pas nouvelle. On se souvient de la loi qui interdisait la propagande LGBTI auprès des mineurs en 2013 et qui a été étendue en 2022 à la population générale. On sait aussi que cette répression contre la population LGBTI, elle s'inscrit dans un contexte plus large de destruction de la société civile en Russie, qui s'est accentuée avec la guerre en Ukraine. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi le pouvoir s'attaque de manière si virulente aux personnes LGBT et à ceux et celles qui les représentent en Russie?
La question est un peu large, donc j'ai commencé par donner une image peut-être un peu plus large de ce qui s'est passé en Russie en 2011, 2012, 2013. Parce que c'est à ce moment-là que les autorités russes ont commencé à visser la société civile russe et où il y avait tout un éventail des lois répressives qui étaient adoptées à ce moment-là. C'était juste le moment après des élections, les élections, d'abord les élections pour le Parlement russe en décembre 2011 et après des soi-disant des élections de Poutine en mois de mars 2012. Donc, et c'est à ce moment-là que la société russe d'un coup se réveillait et commençait à soi-disant s'intéresser à la politique. Et donc, les autorités russes n'aimaient pas du tout ça. Et c'était les premières manifestations nombreuses, d'abord à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et après dans des autres grandes villes de Russie. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir se sentait menacé et commençait à adopter les lois répressives. C'était tout d'abord, c'était les lois sur les agents de l'étranger qui interdisaient, interdisaient toutes les activités politiques des organisations de défense des droits humains. Et c'était aussi il y avait aussi des lois contre les organisations indésirables, soi-disant les organisations étrangères qui travaillaient en Russie aussi. Donc il y avait, FDH a même fait un petit rapport, un tableau de 50 loi répressive qui était adoptée pendant 5 ans, de 2012 jusqu'à 2018. Et donc, on voit que le pouvoir avait peur de toutes les sortes de, des autres. Et donc, tous les mouvements libres, tous les mouvements qui ne dépendaient pas de le pouvoir et avaient dû être interdits, soit limités. Donc ça, c'était le début. Et donc on peut dire maintenant, de notre point de vue d'aujourd'hui, on peut dire que ces lois-là de 2013 n'étaient pas si répressives que ça, disons, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... par rapport aux autres lois, par exemple, de loi d'agents de l'étranger, les lois contre la propagande contre la propagande LGBT parmi la jeunesse n'avaient pas autant de conséquences
aussi graves.
Il y avait des conséquences graves, mais c'était des conséquences graves psychologiques. C'était toute la jeunesse LGBTI qui était exclue de la société par ce loi-là. C'était pas tellement grave par les conséquences juridiques, ouais, mais par les conséquences psychologiques. Parce que, donc, on dit à ces adolescents qu'ils n'étaient pas normaux, qu'ils sont malades, qu'il faut les soigner et qu'on ne peut pas les parler. Parce que c'était surtout visé, comme c'était, la propagande était interdite parmi la jeunesse, donc on a visé surtout les livres pour la jeunesse, les écoles, toutes les leçons, tous les cours qui avaient... donné par les ONG indépendants pour expliquer comment ça se passe, tous les cours éducatifs. Donc tout ça, c'était interdit pour la jeunesse, et donc c'est cette jeunesse-là qui était exclue de la société. Mais vous pouvez pas imaginer que la Russie est très grande et dans un coin paumé où il n'y a pas d'Internet et où il y a des ados comme ça, et on leur dit qu'ils sont malades, il faut les soigner, ils n'ont plus de sources d'informations, et c'est ça, je crois que c'est ça le crime le plus grave commis par ce loi-là. Quant à... Oui, pardon.
Et Nathalie, non, merci beaucoup. Mais justement, pourquoi finalement ensuite le pouvoir a ressenti le besoin d'aller plus loin en 2022, et ensuite là, tout d'un coup, le ministre de la Justice décide de saisir la Cour suprême pour qualifier le mouvement international LGBT d'organisation extrémiste. Pourquoi maintenant, quelle urgence et quel est l'objectif en fait de cette action?
Ça, je crois que c'est mon opinion personnelle, mais je crois que c'est lié à la guerre et au fait qu'il n'y a pas de victoire dans la guerre. Et on a espéré de vaincre l'Ukraine en 3 jours et ça n'a pas marché. Et maintenant, la société cherche l'ennemi. Et l'ennemi, ça peut être n'importe qui, mais ça doit être l'autre. Et l'autre, c'est toujours la xénophobie, et xénophobie inspirée par l'État. Donc en novembre 22, Poutine a déjà signé le décret numéro 809, où il a soi-disant créé une idéologie. Ça, c'est aussi le problème des autorités russes d'aujourd'hui, parce que à l'époque soviétique, on avait idéologie très bien, très concrète, qui mobilisait la population. Aujourd'hui, on ne peut pas mobiliser la population parce qu'on n'a pas d'idéologie. Donc, on essaie de la recréer en prendre un morceau par-ci, un morceau par-là. Donc, Poutine a signé le décret où il a décrit justement l'idéologie actuelle russe. D'où on voit que le citoyen idéal russe, c'est l'orthodoxe, très religieux, un mari, Donc, les femmes, on ne les voit pas trop. Donc, ça doit être une famille nombreuse, avec beaucoup d'enfants. Donc, le divorce n'est pas pensable. Et donc, c'est signé par notre président, qui est officiellement divorcé, qui a beaucoup d'enfants, mais illégitime. Donc, sa vie privée me regarde, mais quand même, si tu imposes quelque chose à la population, donc il faut que tu le suives toi-même. Mais non. Et donc, c'est en fait, on cherche des robots orthodoxes qu'au moment donné, qu'ils vont à la guerre sans poser trop de questions et qui servent l'État. Sans trop poser de questions, sans se poser de questions. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'il y a des groupes de gens qui ne veulent pas entrer dans ce cadre, cadré comme ça. Et donc, on cherche des ennemis. Et en plus, la guerre traîne, il n'y a pas de victoire. Donc, c'est qui est responsable? Donc, on a trouvé des responsables. Donc, il n'y a plus des activistes parce que les activistes et des militants, soit ils sont partis, soit ils sont en prison. Donc, il nous faut un autre ennemi. Et donc, eh bien, on l'a trouvé, c'est LGBTI. Maintenant, on n'a plus des activistes qui sont ouvertement contre la guerre en Russie, il n'y en a plus parce que c'est trop dangereux. Donc on essaie de persuader la population que c'est à cause de cette strate, cette population, cette LGBT, qu'on ne peut pas, que jusqu'à maintenant, on ne finit pas la guerre.
Merci Natalia. Et justement, ce mouvement LGBT international qui a été qualifié donc d'extrémiste, il est indéfinissable en fait, il n'existe pas. Donc en pratique, comment ça va s'appliquer cette décision en fait? Quelles vont être les conséquences sur la communauté LGBT?
En fait, c'était très sophistiqué parce que c'est pas la loi. Malgré le fait qu'on a adopté toutes les sortes de lois, pourquoi c'est pas la loi? Parce que maintenant, on peut toujours dire qu'on n'a pas de loi contre LGBT, on n'a rien contre LGBT, nous respectons les droits humains, on respecte tous les LGBT, toutes les personnes, donc on n'a pas de loi, on est juste contre l'extrémisme. Et donc, et pour ça, ils ont créé dans leur tête, je ne sais pas où, le mouvement qui n'existe pas. Comme ça, les représentants de ce mouvement ne peuvent pas être à la cour, ne peuvent pas être au tribunal, ne peuvent pas venir au tribunal pour opposer à cette plainte, parce que le mouvement n'existe pas. C'est très sophistiqué juridiquement parlant, c'est fait. C'est incroyable parce que on doit contester ce qui n'existe pas. On peut appliquer à n'importe quelle personne qui se déclare qui appartient à LGBT. Et même comme nous savons que l'arc-en-ciel, c'est le symbole de LGBT. On peut dire toujours que si on a, je ne sais pas, sur le vêtement ou quelque part, ou même sur le parapluie, on a un petit signe d'arc-en-ciel, les personnes peuvent être jugées l'extrémiste parce que c'est le symbole des LGBT, donc du mouvement de... extrémiste. C'était à l'époque quand Navalny le mouvement de Navalny venait d'être déclaré extrémiste aussi. On a jugé des gens juste pour la lettre N sur leurs avatars sur Facebook ou Instagram. Donc ici, on ne sait pas du tout comment on va appliquer ce loi, mais j'imagine qu'on peut l'appliquer à toutes les personnes qui ne connaissent pas.
Et j'imagine donc, que cette incertitude et cette place à l'arbitraire habituelle hein, du pouvoir ouais. dans la répression, doit créer beaucoup de peur dans la communauté. Est-ce qu'on a déjà vu des conséquences concrètes aujourd'hui de cette nouvelle cette décision?
Pour l'instant, non, parce qu'il n'est pas encore entré en vigueur. C'était le 10 janvier qu'il est entré en vigueur.
OK.
Et donc, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir les conséquences. Ou pas. Ça peut être aussi la décision qui peut être dormant. Et on l'applique à un moment donné, quand on veut. Et pas tout de suite, c'est bien possible, parce que quand on en a besoin. Parce que pour les activistes, pour les militants, on a toujours tous les lois.
Oui, il y a tout un arsenal qui peut déjà être déployé à disposition.
Oui, encore un peu plus d'armes pour les autorités russes.
Et Natalia, est-ce qu'il y a quelque chose, de quelle manière, en fait, à ton avis, on peut soutenir la communauté LGBTI en Russie et de manière générale la société civile qui est persécutée?
La question, déjà, je réponds à cette question pendant à peu près 2 ans, mais la réponse est toujours la même, qu'il ne faut pas refuser les visas aux personnes persécutées. Les visas européens, les visas américains, les visas canadiens, tous les... et aider des migrants russes de toutes les sortes. Je comprends très bien que les migrants ukrainiens passent d'abord, mais il ne faut quand même pas refuser les migrants russes et surtout les défenseurs des droits humains et maintenant les personnes LGBT, de les refuser la possibilité de quitter la Russie. Parce que maintenant, on commence à. Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans les pays limitrophes, genre Arménie, Géorgie, Turquie, Kazakhstan, etc. Mais on commence à avoir les cas des défenseurs qui étaient enlevés par les autorités russes dans ces pays-là. Et. Parce que les gens n'avaient pas de visa pour quitter ces pays-là. Donc. Moi, ma réponse de toujours est donner des visas aux défenseurs russes.
Merci infiniment, Natalia, et très bonne journée.
Merci, Cécile et Natalia. Pour en savoir plus sur l'impact de la décision de la Cour suprême russe sur la communauté LGBT, écoutez notre entretien avec Ksenia Kirichenko, une autre défenseuse des droits humains russes, invitée de la version anglaise de notre podcast Not a Crime. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien généreux des donateurs du réseau juridique VIH. Leur soutien nous permet de réagir rapidement à l'actualité. Nous les en remercions. Pour faire un don au réseau juridique, allez sur notre site réseaujuridiquevih.ca. Au mois de janvier, toutes les donations au réseau seront doublées grâce au défi de Charlie. Restez à l'écoute. Notre prochaine saison de Pas un crime sera bientôt disponible.